propulsion électro-aérodynamique, alimentée par Maxwell et Coulomb. Les idées présentées dans cet essai proviennent de dizaines d'expériences réalisées par l'auteur entre 2016 et 2018, explorant la propulsion électro-aérodynamique avec une large gamme de sources d'alimentation, AC et DC, de géométrie d'électrode et de type d'émetteur d'ions. Ces investigations ont abouti à la construction du rotor de 80 cm représenté ci-dessous, qui a atteint une vitesse de rotation de 18 Hermine avec moins de 6 kV et seulement environ 100 mW de puissance électrique d'entrée. Cette campagne expérimentale a révélé que les performances dépendent bien plus de la distribution et de la géométrie des champs électrostatiques que du mouvement de l'air ou du courant ionique lui-même. Ces observations ont posé les bases de la reformulation théorique de la propulsion électro-aérodynamique qui suit. Propulsion électro-aérodynamique, le moteur silencieux. La propulsion électro-aérodynamique, EED, souvent appelée poussée électro-hydrodynamique, EHD, ou vent ionique, est l'une de ces technologies rares qui semble sortie de la science-fiction, un dispositif qui se déplace silencieusement dans l'air sans pièces mobiles, sans combustion et sans échappement visible. Le public en a entendu parler pour la première fois au début des années 2000 à travers des projets de lifteurs dans des jardins, et à nouveau en 2018 lorsque le MIT a démontré un avion ionique glissant à travers un gymnase. Pourtant, la physique sous-jacente a une histoire plus longue et plus complexe. Près d'un siècle plus tôt, Thomas Townsend Brown et Paul Biefeld ont observé que des condensateurs haute tension pouvaient générer une petite poussée persistante. Brown a attribué l'effet à l'antigravité. La science moderne, armée des lois de Maxwell et de Coulomb, reconnaît que la vérité est plus subtile et, à bien des égards, plus profonde. La propulsion EED ne consiste pas à souffler de l'air avec des ions. Il s'agit de sculpter des champs électriques de manière à ce que les contraintes électrostatiques résultantes produisent une force mécanique nette. Dans ce sens, les dispositifs EED sont alimentés par Maxwell et Coulomb, par la géométrie et la dynamique du champ électrique lui-même. La méconception du vent ionique. Demandez à la plupart des ingénieurs ce qu'est la propulsion EHD et vous entendrez une histoire simple. Un émetteur pointu produit des ions par décharge couronne. Ces ions s'accélèrent vers une électrode collectrice, entrant en collision avec des molécules d'air neutre en chemin et leur transférant de l'impulsion. Le gaz neutre se déplace, le fameux vent ionique, et, par la troisième loi de Newton, le dispositif subit une poussée égale et opposée. Cette image n'est pas fausse, mais elle est incomplète. En pratique, les ions transportent une masse négligeable. Leurs collisions avec les neutres sont fréquentes, oui, mais l'impulsion transférée par collision est minime. Plus important encore, aucune force mécanique significative n'agit directement sur la pointe de l'aiguille ou le collecteur. Le vent est un sous-produit, non la source, de la propulsion. Le véritable moteur réside dans le champ électrique qui accélère ces ions, dans la redistribution de l'énergie électrostatique alors que la charge spatiale se forme et s'écoule. Pression de champ et contrainte de Maxwell. Les équations de Maxwell décrivent comment les champs électriques stockent et transfèrent l'impulsion via le tenseur de contrainte de Maxwell. Dollar. Bar oblique inversé mat HBF, T, égale bar oblique inversé var epsilon tiret bas 0 bar oblique inversé mat HBF, E, bar oblique inversé mat HBF, E, bar oblique inversé T frac, 1, 2, E carré bar oblique inversé mat HBF, I. Dollar. L'intégration de ce tenseur sur la surface de n'importe quel corps donne la pression électrostatique nette qui y agit. Cette pression, non le mouvement de l'air, est ce qui pousse un propulseur EHD vers l'avant. Lorsqu'une décharge couronne se produit, un nuage d'ions se forme autour de l'émetteur. Ces ions font deux choses critiques. 1. Ils masquent partiellement le champ électrique de l'émetteur. L'intensité du champ local diminue près de la pointe, mais reste forte dans le volume environnant. 2. Il déforme la géométrie globale du champ. D'un côté de l'émetteur, les lignes de champ se terminent sur des surfaces chargées proches ou des structures mises à la terre. De l'autre, elles s'étendent vers l'extérieur, partiellement neutralisées par la charge spatiale. Le résultat est un déséquilibre de la pression électrostatique sur le système émetteur-collecteur, une force nette. L'impulsion coule du champ vers les électrodes, non par des collisions moléculaires. La loi de Coulomb en action. Au niveau le plus simple, les forces impliquées sont décrites par la loi de Coulomb. Dollar. Bar oblique inversé, met et bf, f, égale bar oblique inversé frac, 1, (4π(π)(var0)(0)(frac) q tiré bas 1 quintal tiré bas 2 r carré (hat r dollar). Chaque élément de surface chargé d'une structure HD attire ou repousse chaque autre région chargée dans son environnement. La poussée totale est la somme vectorielle de ces innombrables interactions coulombiennes, continuellement remodelées par les ions en mouvement qui modulent le champ. Dans un état stationnaire de couronne, une fine gaine d'ions positifs se situe entre un émetteur haute tension et un collecteur relativement négatif, ou l'environnement environnant. Ces ions servent de médiateurs. Ils masquent partiellement l'attraction entre l'émetteur et le collecteur, et en se déplaçant, réinitialisent continuellement l'asymétrie du champ. L'entrée électrique constante maintient ces déséquilibres, convertissant l'énergie potentielle électrostatique en force mécanique. Leçon de la NASA et les limites du paradigme du vent ionique. Au début des années 2000, la NASA et ses sous-traitants ont revisité des dispositifs de type Biefeld-Braun dans le cadre des études Gravitech et Thales-EA, en utilisant des condensateurs asymétriques haute tension dans des environnements atmosphériques et sous vide. Les expériences visaient à tester si l'effet pouvait persister en l'absence d'air. Les résultats étaient sans équivoque et involontairement révélateurs. En mode atmosphérique, les rotors ont atteint une rotation à peine mesurable, un 2 TR min, et une poussée dans la plage d'ISA, des ordres de grandeur inférieurs à ce qui serait attendu si les dispositifs exploitaient vraiment un effet gravitationnel. Le mouvement était entièrement attribuable à une décharge couronne conventionnelle et à un faible vent ionique. Sous vide, à des pressions descendant à 10⁶, le mouvement a cessé complètement. Tout signal transitoire a été tracé jusqu'à un dégazage ou une charge résiduelle de surface. Sans molécules d'air pour maintenir l'ionisation, le champ électrostatique est devenu symétrique et la force a disparu. Les investigateurs ont conclu que la poussée variait grossièrement de manière linéaire avec la densité de l'air, un résultat souvent cité pour débunker la propulsion EHD comme impossible sous vide. Mais ce qu'il a vraiment démontré est plus profond. Sans un milieu pour transporter la charge spatiale, le champ électrique perd l'asymétrie qui produit les gradients de pression électrostatique. En d'autres termes, ces premiers tests ont accidentellement confirmé l'interprétation de la contrainte de Maxwell de la propulsion électro-aérodynamique. Ce n'était ni la gravité, ni un simple traînée ionique, c'était la présence d'un déséquilibre de champ médiatisé par la charge qui importait. Les dispositifs Gravitech, construit pour la simplicité et la symétrie, manquaient de tout réservoir de charge significatif ou de diélectrique formeur de champ. Leurs géométries ouvertes diffusaient les lignes de champ dans l'environnement, gaspillant la plupart de l'énergie électrostatique. À l'opposé, le rotor EPS-aluminium décrit ici concentrait la charge le long d'une peau conductrice bien définie, permettant à la région de charge spatiale de sculpter le champ local. Résultat, une poussée utilisable avec moins de 6 kV et environ 100 mW, une performance près de 2 ordres de grandeur meilleure en efficacité énergétique. Ces découvertes font écho à un thème constant. L'efficacité électro-aérodynamique émerge non du voltage ou du flux d'air, mais du contrôle de la topologie de charge et de la géométrie de champ. L'effet réservoir de charge. Une feuille légère sur un noyau rigide et isolant se comporte comme plus qu'un simple conducteur. Elle forme un réservoir de charge de grande surface qui amplifie l'asymétrie du champ électrique. Dans le design actuel, le polystyrène expansé, EPS, sert purement de support structurel léger, sa surface entière enveloppée de feuilles d'aluminium qui est électriquement continue avec l'alimentation haute tension. L'EPS ajoute une fonction électrique négligeable. Sa valeur réside dans la possibilité d'une grande surface conductrice à masse minimale. Cette peau conductrice étendue stocke la charge directement de l'alimentation, permettant à la décharge couronne d'opérer contre un champ électrostatique préchargé plutôt que de le construire à partir de zéro à chaque cycle. La grande surface de la feuille augmente dramatiquement la capacité effective, de l'ordre de 10 à cm moins puissance 2, selon la texture et la courbure de la surface, et convertit une tension appliquée modeste en un gradient de champ électrique local beaucoup plus fort. Lorsque la couronne s'allume, la feuille agit comme une référence de potentiel stabilisante. Les ions émis modulent légèrement le champ local mais ne le dominent pas. Au lieu de cela, la charge de surface stockée maintient une asymétrie stable qui produit une poussée continue à très faible puissance. Du point de vue de la contrainte de Maxwell, la force est proportionnelle à l'intégrale de l'intensité du champ et de son gradient. F presque égal à epsilon 0 intégrale, EE, dV. et la grande feuille bien chargée maximise les deux termes sans nécessiter une tension ou un courant plus élevé. Cela explique pourquoi un rotor basse puissance et basse tension pouvait atteindre une rotation significative. Il a substitué l'énergie électrostatique stockée aux pertes de courant ionique élevées des géométries vent ionique conventionnelles, une forme pratique d'efficacité électrostatique. La géométrie de l'efficacité. L'efficacité d'un propulseur EHDI n'est pas déterminée par la vitesse du flux d'air, mais par l'efficacité avec laquelle le champ électrique est façonné. Les paramètres clés incluent asymétrie du champ, la composante directionnelle nette du gradient de pression électrostatique. Distribution de densité de charge, comment le nuage d'ions modifie ce champ par masquage partiel. Couplage capacitif, la charge totale stockée sur les surfaces opposées par volt appliqué. Canaux de perte, perte couronne, recombinaison et fuite diélectrique. Les designs qui confinent et façonnent le champ, par exemple, en plaçant une large surface oppositement chargée près de l'émetteur, peuvent obtenir des améliorations d'ordre de grandeur en poussée par watt. Le champ électrique fait le travail. Les ions ne font que permettre au champ de rester asymétrique et dynamique. Réexamen de Biefeld-Braun. Les premières observations de Braun sur la poussée des condensateurs asymétriques précèdent notre compréhension moderne de la physique des plasmas. Sans le cadre de la contrainte de Maxwell ou de la dynamique de charge spatiale, il était naturel de penser que l'effet pourrait impliquer la gravité. Le fait que les propulseurs EHD produisent une force contre le vecteur de champ, et parfois verticalement vers le haut, n'a fait qu'approfondir le mystère. Vu à travers le prisme d'aujourd'hui, l'antigravité de Braun n'était que de la pression électrostatique rendue visible. La similarité de formes mathématiques, à la fois les énergies potentielles gravitationnelles et électrostatiques décroissent comme un air carré, rendait la confusion historiquement compréhensible, mais la physique est entièrement électromagnétique. Perspective et contexte moderne. Les analyses récentes et les discussions entre pairs renforcent cette reformulation de la propulsion électro-aérodynamique comme un phénomène de gradient de champ plutôt qu'un moteur à vent ionique. Dans les configurations classiques de lifter, des courants couronnes de l'ordre du milliampère à des dizaines de kilovolts produisent des densités de poussée dans la plage micro, à millinefton par watt, un reflet de la faible quantité d'énergie de champ électrique qui se traduit en contrainte mécanique dirigée. À l'opposé, le rotor EPS enveloppé de feuilles convertit la même loi physique en un processus piloté par la charge. La large surface conductrice maintient un fort gradient E avec un courant minimal, troquant les pertes de dérive pour de l'énergie de champ stockée. Cette distinction fait écho à un changement plus large dans la recherche contemporaine. Les actionneurs à décharge à barrière diélectrique dans le contrôle aérodynamique dérivent également leur force de surface de la contrainte de Maxwell plutôt que d'un flux d'air volumique, atteignant des efficacités de 10 à kW moins puissance, lorsque la géométrie des électrodes est accordée pour l'asymétrie. Les géométries d'électrodes flottantes et de confinement étudiées à l'ONERA et dans les programmes EHDI de l'UE montrent des augmentations de poussée de 2 à 5 fois en façonnant la gaine ionique, précisément la logique de design du rotor réservoir de charge. Et dans des environnements à air raréfié, comme la stratosphère supérieure ou l'atmosphère martienne, où la traînée ionique faiblit mais la contrainte électrostatique persiste, des surfaces riches en charge peuvent maintenir la propulsion longtemps après l'échec des designs conventionnels. La physique s'aligne parfaitement avec le cadre de l'impulsion de Poynting de l'électromagnétisme classique, la poussée correspond au gradient de la densité d'énergie de champ. F presque égal à epsilon 0 intégrale, EE, dV. Signifiant que le système tire l'impulsion directement du champ électromagnétique. Les ions sont des catalyseurs maintenant le déséquilibre, non la masse de réaction elle-même. Cela explique pourquoi, dans les expériences sous vide où le champ devient symétrique, la poussée disparaît, le terme E s'effondre. Inversement, dans le rotor réservoir de feuilles, la peau capacitive garde raide et directionnelle, produisant environ 0,1 à 2 poussées équivalentes en couple à partir de seulement 100 mW de puissance d'entrée, 100 fois l'efficacité des dispositifs de traînée ionique. Moins. Paramètres design conventionnel, vent ionique, rotor, réservoir de charge en feuille implication. Moins, 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 moins. Tension 20 à inférieure à 6 kV, risque de claquage moindre, mise à l'échelle plus facile. Puissance 1 10W presque égale à 0,1W 100 fois poussée plus élevée W. Mécanisme de poussée collision ion neutre gradient de champ, contrainte de Maxwell, largement indépendant de la densité d'air. Éléments clés écart, émetteur collecteur, réservoir capacitif en feuille charge stockée supérieure à courant transitoire. Efficacité. NKW moins puissance 1. 0.010, 1 10, 1 ferré, faisable pour micro WAV. Moins. De telles comparaisons mettent en lumière un pivot conceptuel, de la propulsion pilotée par courant à la propulsion pilotée par charge, du mouvement de matière au façonnage de champ. La prochaine frontière est ce qu'on pourrait appeler l'architecture électrostatique, utilisant l'optimisation computationnelle et des matériaux avancés, émetteurs en nanotubes de carbone, feuilles texturées, diélectriques métamatériaux, pour maximiser intégrale EE. Les modes d'essai pulsés hybrides pourraient exploiter davantage le stockage de charges transitoires tout en réduisant les sous-produits chimiques. Conclusion. Alimenté par Maxwell et Coulomb. La propulsion électro-aérodynamique n'est pas une curiosité exotique ou une anomalie pseudo-scientifique. C'est une manifestation directe des lois de Maxwell et de Coulomb, une machine macroscopique qui convertit l'énergie potentielle électrostatique en mouvement par une asymétrie de champ contrôlé. Où les premiers inventeurs voyaient l'antigravité et les projets modernes voient le vent ionique, l'histoire réelle est plus simple et plus profonde, les champs électriques possèdent une tension. Façonnez cette tension, et vous pouvez vous propulser à travers l'air sans pièces mobiles, sans carburant et sans bruit. C'est le génie silencieux de la propulsion électro-aérodynamique, véritablement alimenté par Maxwell et Coulomb. Référence 1. Thalé, C. et Al. Évaluation de l'effet Biefeld-Braun. Test de propulseur à condensateur asymétrique en vide et en atmosphère. EAPAPER 2003-2023, NASA Marshall Space Flight Center, 2003. 2. Braun, TT appareil électrocinétique. US patente numéro 3,187,206, 1965. 3. Wilson, S. Barrett, SR vol d'un avion avec propulsion ionique à état solide. Nature 563, 532-535, 2018. 4. Moreau, E. Contrôle du flux d'air par actionneur plasma non thermique. J-Fi. D. Apple. Phi. 40. 605-636, 2007. 5. Rony, PD contrôle de flux IHD et actionneur plasma. NASA Technical Report Server, 2015. 6. Programme IHD Onera, propulsion électro-hydrodynamique et contrôle de flux. Rapport interne, 2018-2023.